Radio de la Paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Mel Emmanuel.
7 heures partout dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio de la Paix. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, affirme faire confiance à la commission électorale indépendante CEI dans sa composition actuelle à l'approche de la présidentielle de 2025. Lutte contre le VIH, le ministère de la Santé lance la deuxième enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire, CIFIA 2024. Hors de nos frontières, au Libéria, un groupe de sénateurs propose la création d'une nouvelle capitale loin de Monrovia, sujette à de nombreuses inondations ces dernières semaines. Revenant en Côte d'Ivoire, Jean-Mylène Bitti vous fera le tour des titres des journaux ivoiriens. Et en fin de bulletin, l'invité de la rédaction sera le vice-président du Front Populaire Ivoirien, chargé des questions électorales, Kwaku Kra. Il se prononcera sur le récent appel à l'union de l'opposition lancé par l'ex-président Laurent Gbagbo à Benoît. Bonjour à toutes et à tous. En ouverture de ce bulletin, l'avis des partis politiques. À l'appel du coordonnateur régional du RHDP chargé de la commune de Boaké, des sous-préfectures de Djébonois et de Brobo, les militants du parti au pouvoir se sont retrouvés samedi à leur siège à Boaké. Objectif, se mobiliser pour l'opération de révision de la liste électorale dans la perspective de la présidentielle de 2025. Occasion saisie par le coordonnateur régional du RHDP pour exhorter ses militants à se tenir prêt avant d'annoncer que son parti est en phase avec la commission électorale indépendante CEI. CEI, le ministre Amadou Koné.
En ce qui nous concerne, nous nous sommes présents à la CEI comme les autres partis, comme la société civile. Nous faisons confiance à la CEI telle qu'elle est constituée parce qu'elle est issue de dialogues politiques de plusieurs et elle avait eu dans sa composition l'assentiment donc, de tous les partis politiques. Donc je ne vois pas pourquoi donc, nous remettrons en cause. Et c'est un débat qui est récurrent chaque année, à chaque élection. Puis vraiment il faut se mettre au travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut avoir des élections. Qu'ils soient mobilisés, non seulement pour s'inscrire sur la liste électorale, mais qu'ils soient également mobilisés pour aller voter. Que les gens aient envie de voter. Que le taux de participation aux élections puisse augmenter. C'est ce travail que je pense que nous devons tous faire et faire en sorte que donc, les élections se passent de façon apaisée. Le pays a besoin donc de paix, le pays a besoin de stabilité et que donc, ces élections-là donc, soient gagnées d'abord sur le terrain. Après, au niveau de la CEI, moi je suis confiant avec tous les moyens dont nous disposons pour contrôler les choses, pour avoir les PV, s'assurer que donc, les résultats ne sont pas troqués. Donc tous ces éléments-là donc, existent.
Le coordonnateur régional du RHDP pour la commune de Boaké, le ministre Amadou Koné, était au micro de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke. D'un parti politique à un autre et toujours dans le Gbeke, une mission de la direction du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a séjourné récemment dans la région en vue de mobiliser ses troupes pour les futures batailles électorales. Cette tournée a été un prétexte pour le coordonnateur régional de ce parti dans le district de la vallée du Bandama de plaider afin que les conditions soient réunies pour une présidentielle apaisée en 2025. À Maningé-Saint-Michel, dans des propos recueillis par Joseph Assalé.
Les militants du PPACI ont décidé de porter le président Laurent Gbagbo à la candidature au présidentiel prochaine. Par conséquent, il est bon, premièrement, d'informer toutes les populations ivoiriennes. Deuxièmement, de mettre le parti en ordre de bataille. Nous pensons que les conditions démocratiques soient créées pour que nous puissions aller à des élections apaisées. Donc, pour créer ces conditions, rien ne dépend de nous. Tout dépend du pouvoir. Nous, nous sommes preneurs. Si on crée ces conditions, c'est évident que les choses vont se passer dans la paix. Mais si on ne crée pas les conditions, c'est qu'on cherche à ne pas créer la paix. Nous souhaitons que les choses se passent dans la paix. Et c'est pourquoi le président Gbagbo a diligenté des délégations partout pour informer les Ivoiriens des défis qui sont actuels que nous devons relever ensemble. Mais rien ne dépend de nous puisque nous ne sommes pas les décideurs. À l'endroit des militants, je souhaite une mobilisation totale. Nous allons aller à des élections, cela suppose que tout le parti est mobilisé et que nous puissions aller partout, dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers des villes, partout, pour défendre la candidature du président Laurent Gbagbo, afin qu'au soir d'octobre 2025, nous soyons proclamés vainqueurs de ces élections.
À l'instant, le coordonnateur régional du PPSI dans le district de la vallée du Bandama, Amanine Guesson-Michel. Une page santé dans ce bulletin, lutte contre le VIH. Le gouvernement ivoirien et ses partenaires veulent développer des stratégies de lutte pour éradiquer la maladie dans notre pays. Avec la montée chez les jeunes de 15 à 25 ans qui représente 40% de nouvelles infections, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a procédé vendredi dernier à Abidjan au lancement de la deuxième enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population Côte d'Ivoire, CIFIA 2024. Elle se déroulera du 1er août au 21 décembre 2024. On fait le point avec Paul-Bénédicte Bolo.
Pierre Demba se prononce sur l'objectif principal du CIFIA 2024 à la fin de cette cérémonie.
Cette enquête va nous permettre d'ajuster la stratégie, de regarder les nouveaux comportements qui se développent. Je sais qu'aujourd'hui, les moyens de communication et de sensibilisation que nous utilisons n'atteignent pas certaines cibles, dont les jeunes. Il faudra donc ajuster ces méthodes-là et cette enquête va nous révéler le pourcentage donc, de l'impact de nos actions sur ces populations-là, mais également mesurer les progrès réalisés et voir les ajustements à faire. Donc je pense qu'à l'issue donc, de cette enquête, nous allons élaborer le plan stratégique 2026-2030 qui va vraiment cibler là où il faut que nous puissions intervenir pour être efficaces et atteindre les résultats attendus. Aujourd'hui, pour nous, nous devons descendre en dessous de 1% pour ne pas que le VIH soit une préoccupation de santé publique et vraiment faire en sorte que tout le monde connaisse un peu comment se manifeste cette maladie et prendre les mesures idoines pour éviter la contamination.
L'enquête CIFIA 2024 est financée par le gouvernement américain. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Dedisba.
Le peuple américain, à travers le PEPFAR, a investi presque 2 milliards de dollars pour combattre avec la Côte d'Ivoire ce maladie. Et avec cette enquête, ça donne l'occasion d'avoir des données fiables, d'informations fiables. Nous avons investi dans les populations locales, aussi les fournisseurs locaux. Les jeunes qui vont aller dans les villages et les villes partout ici en Côte d'Ivoire. Ça montre l'investissement des États-Unis dans l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Pour ce CIFIA 2024, les résultats provisoires sont attendus pour fin 2024, début 2025.
La culture fait aussi l'actualité. Nous en parlons avec la 9e édition de l'Adayek Essieff Festival, lancée officiellement vendredi dernier à Abidjan. Prévu pour se tenir du 29 octobre au 2 novembre prochain à Tabagne, dans le Gontougo, le festival s'ouvre cette année aux pays frontaliers de la Côte d'Ivoire pour un partage de culture avec plus de 48 000 visiteurs attendus. Christelle Yesso.
Prévu sur 5 journées de célébration, le commissaire général du festival, Bini Ouattara Daouda, retrace l'historique de ce festival.
Adaye d'abord, c'est la somme de plusieurs rituels. Le dernier rituel de la fête des Ignames au Pays Bronc, où le roi a consommé en dernier l'Igname, qui s'est bien réveillé, était bien portant, et qui est sorti pour que le peuple vienne acclamer le roi.
Le thème, peuple transfrontalier, valeurs traditionnelles en partage, s'avère être l'une des innovations de cette 9e édition.
Avant, ça se faisait entre le peuple du royaume et cette fois-ci, c'est une grande première. Nos parents qui sont à la frontière se déplacent jusqu'à venir avec leur culture à Tabaye, dans le Gontouo, pour célébrer avec nous l'Adayek Essieff. Nous attendons ce jour pour que Tabaye soit la capitale de la culture du tourisme de la Côte d'Ivoire.
L'Adayek Essieff, c'est aussi de nombreuses activités extraculturelles.
Cette année, il y a des ateliers scientifiques, exhibition des troupes de danse traditionnelles, exposition d'objets traditionnels, parades de la chefferie traditionnelle et du roi, village gastronomique, dégustation gastronomique des mets de la région.
Et pour assurer la sécurité sur les routes, l'Office de sécurité routière OZER se fait partenaire, son directeur général, Étienne Kouakou.
L'an passé, ça a été une très belle tribune. Nous pensons que cette année encore, nous allons le rééditer. C'est près de 48 000 festivaliers qui se retrouvent et pour nous, c'est une très belle tribune pour parler de sécurité routière. Il nous faut arriver à Tabagne en toute sécurité et en revenir en toute sécurité sur les routes.
Un hommage sera également rendu aux anciens combattants durant ces célébrations.
Hors de nos frontières, les graves inondations ces dernières semaines au Libéria ont poussé un groupe de sénateurs à proposer la création d'une nouvelle capitale, loin de Monrovia, surpeuplée. Une idée accueillie à la fois avec enthousiasme et scepticisme. Des inondations soudaines provoquées par des pluies torrentielles entre juin entre fin juin et début juillet ont laissé près de 50 000 Libériens dans une situation d'urgence, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. La capitale, Monrovia, sujette aux inondations depuis plusieurs années, a été particulièrement touchée, en partie à cause de la surpopulation, d'un mauvais système d'égouts et d'un manque de réglementation en matière de construction. Revenons sur les bords de la lagune Ébrier, ici à Abidjan, pour la revue des titres de la presse ivoirienne. C'est avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité du jour, plusieurs sujets d'importance marquent les titres des journaux ivoiriens témoignant la dynamique politique et sociale en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, l'entretien du Premier ministre et le président du patronat a fait l'objet de nombreux commentaires. Ainsi, Soir-Info rapporte que les discussions ont porté sur les enjeux cruciaux pour le secteur privé ivoirien. De son côté, le Patriote souligne l'importance de cette rencontre pour renforcer la collaboration entre l'État et les entrepreneurs. En outre, l'Intercept semble corroborer cette tendance, mettant en avant les perspectives d'une meilleure synergie entre le gouvernement et le secteur privé. Parallèlement, les déclarations de Tenebi Raïma Ouattara concernant le Burkina Faso suscitent une forte attention. L'expression révèle que le ministre évoque la nécessité d'une gestion intelligente des incompréhensions entre les deux pays. Dans ce contexte, Soir Info cite l'accusation grave du Burkina Faso à l'égard de la Côte d'Ivoire, alors que Tenebi Raïma répond fermement à ces allégations, comme le rapporte le Patriote. En effet, les vérités que partage le ministre visent à apaiser les tensions bilatérales. Dans un autre registre, la lutte contre l'orpaillage illégal retient également l'attention des rédactions. L'expression relaie les mesures fortes annoncées par le ministre Sangafoa lors de sa visite dans le district des Savanes. Ainsi, l'Inter met en avant la concorde entre le ministre et les populations locales sur ce sujet délicat, alors que le journal Le Jour Plus détaille les 9 mesures élaborées pour endiguer cette pratique illégale. Au même moment, l'appel de Gbagbo à Bounoua fait l'objet de diverses analyses. L'Union de la gauche démocratique, le quotidien d'Abidjan, traite les enjeux autour de cet appel, tandis que Soir Info rapporte la réaction du FPI face aux déclarations de Gbagbo. De surcroît, le temps révèle les instructions données par Gbagbo au PPACI, renforçant ainsi la notion d'union au sein de l'opposition. Aussi, la tension entre le PDCI et le RHDP est mise en avant dans diverses publications. L'Héritage évoque l'attaque contre le PDCI. Soumaïla met en garde contre les dérives du régime. D'autre part, le temps souligne la réaction d'un cadre du RHDP sur les accusations de tribalisme lancées contre le PDCI, alors que le Nouveau Réveil met en lumière les conséquences de cette tension sur le paysage politique national. Pour conclure cette revue des titres, la décision de l'actuel président américain de se retirer de la course à la Maison-Blanche impacte également les lignes éditoriales. Le Nouveau Réveil annonce cette nouvelle en soulignant l'appel de Biden à choisir Kamala Harris, illustrant ainsi les défis politiques que connaît ce pays. Voilà l'essentiel de l'actualité traitée par les journaux de ce jour. Merci à vos journaux et bonne lecture.
La revue des titres des journaux ivoiriens est à retrouver à nouveau dans le bulletin de 8h, toujours avec Jean-Mélène Bitti. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Le vice-président du Front populaire ivoirien, FPI, chargé des questions électorales, se félicite du récent appel de Laurent Gbagbo à l'union de l'opposition. Kwaku Kra répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Kwaku Kra, bonjour.
Bonjour.
Laurent Gbagbo du PPACI appelle à l'union de l'opposition depuis Bounoua dans un meeting récemment. Qu'en pensez-vous?
Nous avons entendu cet appel du président Laurent Gbagbo et pour nous, c'est une avancée notable. Ça a toujours été un souhait que les frères d'hier puissent se retrouver un jour. Et si le président Laurent Gbagbo a compris la nécessité de ce rassemblement en invitant tous les partis de l'opposition à le rejoindre, je pense que ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose.
Dans ce cas, qu'est-ce que votre formation politique présidée par Pascal Afinguissant va faire?
Il ne nous appartient pas d'anticiper les choses. Nous attendons donc que l'auteur même de l'appel donne une forme, un contenu. Et puis bon, nous allons en discuter.
Alors, forme et contenu de son appel, vous faites allusion à quoi?
C'est une rencontre des organisations politiques, c'est une rencontre des hommes. Et là où il y a un rendez-vous des idées, des opinions, on a besoin nécessairement d'un minimum d'organisation.
Alors, certaines voix disent que c'est impossible que le FPI de Pascal Afinguissant et le PPACI de Laurent Gbagbo se retrouvent aujourd'hui.
Non, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, dans la mesure où le président Pascal Affine-Nguessan, dont je suis vice-président, a toujours œuvré pour le rassemblement, pour l'unité avec le président Laurent Gbagbo. C'est la même famille.
Alors, le FPI se dit favorable à l'appel de Laurent Gbagbo à l'union de l'opposition, mais pendant ce temps, ça semble bizarre, le FPI est en alliance formelle avec le RHDP.
Nous ne sommes pas en esclavage avec le RHDP. La politique, les choses bougent. Hier, nous étions en partenariat. Aujourd'hui, nous sommes donc en face de l'appel de Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a pas d'amalgame. À chaque chose, des initiatives. Hier, c'était le partenariat. Aujourd'hui, nous sommes en face de l'opposition pour aller contrer le RHDP. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors donc, son appel depuis Benoît est un moyen pour parvenir à ce dont vous parlez?
Oui, c'est une occasion, c'est une opportunité pour nous. De la mesure où, pour gagner le pouvoir d'État, il faut rassembler plusieurs organisations. Donc, cet appel est une occasion avec Laurent Gbagbo lui-même pour que ensemble nous envisageons les modalités pratiques de cette victoire en 2025.
Est-ce que, avec les prétentions, les ambitions des uns et des autres, cette union sera possible?
Oui, l'union sera possible si nous prenons la Côte d'Ivoire comme notre objectif. Si nous prenons le peuple de Côte d'Ivoire comme notre objectif, cette union sera possible. C'est lorsque nous nous considérons de façon intuitive, personnelle, que cela peut ne pas être possible.
Je posais la question parce que vous allez vous rassembler, mais il va falloir avoir un leader. Or, lorsque les hommes en général sont ensemble, avec les ambitions des uns et des autres, tel dire c'est moi qu'on doit voir, c'est moi qui dois être à ce poste, c'est moi. Donc comment ça va se faire pour choisir ce leader-là?
Il y a des critères à définir, de sorte que celui qu'on va choisir le soit de façon démocratique. Laurent Gbagbo, si aujourd'hui lui-même il sort de sa réserve, de son mutisme, et qu'il lance un appel, c'est qu'un moment est arrivé, un temps est arrivé. Et lui-même, il le dit toujours, le second nom de Dieu, c'est le temps.
Donc, dans ce cas, est-ce que le FPI peut accepter que Laurent Gbagbo, qui est l'auteur de l'appel, soit le leader de ce mouvement, de cette union de la gauche?
Non, le leader ne se choisit pas par rapport aux personnalités, par rapport au charisme des uns et des autres. C'est par rapport à l'atteinte d'un objectif qu'on se fixe.
Et quel est l'objectif de cette union?
Le premier objectif, c'est de reconquérir le pouvoir d'État avec l'ensemble de toutes les forces qui ne sont pas avec le RHDP. C'est celui qui a le meilleur profil qui va être choisi pour affronter le RHDP. Les Ivoiriens iront dans les urnes. Il faut que celui que nous allons proposer soit accepté ou acceptable. Non, il ne s'agit pas de façon émotionnelle ou émotive d'aller choisir quelqu'un, non.
Alors, dans son appel, Laurent Gbagbo a insisté sur le fait qu'en venant à cette union, qu'il n'y ait pas de roublardise, qu'il n'y ait pas de projet caché. Qu'en pensez-vous?
Oui, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui, mais c'est le débat qui va clarifier tous ces aspects. Mais si on vient avec des programmes sous le manteau et qu'on refuse les débats, c'est en ce moment-là, nous allons faire face à la roublardise. Mais je crois qu'avec tout ce que nous avons subi jusqu'à maintenant, là, la roublardise est derrière nous, n'est plus de mise.
L'élection présidentielle, c'est, je crois, en octobre 2025, si je ne m'abuse. Pour vous, quel est le délai pour asseoir cette union de l'opposition?
D'abord, c'est la volonté. S'il y a la volonté, comme Laurent Gbagbo lui-même, il a eu la volonté de lancer l'appel, en l'espace de 2 ou 3 mois, cette concrétisation peut être mise en place. Vous voyez le Front populaire de la France. En l'espace d'une semaine, ils se sont organisés et ils ont trouvé une organisation qui allait en compétition. Et de troisième, ils sont revenus en première force.
Laurent Gbagbo a dit qu'il appelle l'opposition à s'unir pour reprendre le pouvoir au RHDP. Vous y croyez?
Oui, 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 j'y crois. En dehors de la fraude, qui n'est pas des valeurs de la démocratie, l'opposition organisée, l'opposition unie, l'opposition rassemblée peut battre le RHDP.
Kwaku Kra, je vous remercie.
Merci.
Vous écoutiez l'invité de la rédaction, Kwaku Kra. Il est le vice-président du FPI chargé des questions électorales. Maintenant, rappelons les titres de ce bulletin. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, affirme faire confiance à la Commission électorale indépendante, CEI, dans sa composition actuelle, à l'approche de la présidentielle de 2025. Lutte contre le VIH, le ministère de la Santé lance la 2e enquête d'évaluation de l'impact du VIH sur la population en Côte d'Ivoire, CIFIA 2024. Et puis hors de nos frontières au Libéria, un groupe de sénateurs propose la création d'une nouvelle capitale loin de Monrovia, sujette à de nombreuses inondations ces dernières semaines. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à 8h pour un nouveau bulletin.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.